Chapitre 3. Les aventuriers. C'est elle que ton unique fortune est la sottise des hommes, Casanova, au tricheur aux cartes, Cross. De la guerre de 7 ans jusqu'à la Révolution française, pendant un petit quart de siècle, le calme plat règne sur l'Europe. Les Habsbourg, Bourbon et Hohenzollern manquent de souffle pour continuer à se battre. Les bourgeois répandent béatement devant eux, en silence, une épaisse fumée de tabac. Les soldats poudrent la queue de leurs coiffures et astiquent leurs armes, devenues inutiles. Les pays torturés peuvent enfin respirer un peu, mais sans guerre, les souverains s'ennuient. Ils s'ennuient mortellement, tous les principicules allemands, italiens et autres. Dans leur résidence lilliputienne, ils voudraient bien trouver un amusement. Ces pauvres diables, ces électeurs et ducs heureux, lorsqu'ils peuvent faire les importants et imiter les grands, mènent maintenant une vie affreusement triste dans leur château rococo, fraîchement rebâti et encore humide de froid. Ils s'ennuient, malgré tous leurs jardins de plaisance, fontaines et orangeries, malgré leurs donjons, galeries, parcs à gibier et trésors, avec l'argent qu'ils ont pressuré à leur peuple et avec leur manière hâtivement apprise des maîtres à danser venus de Paris, ils singent Trianon et Versailles et jouent à la grande résidence et au roi soleil. Par nostalgie, ils deviennent même mécènes et beaux esprits. Ils correspondent avec Voltaire et Diderot. Ils collectionnent des porcelaines chinoises, des médailles du Moyen-Âge, des œuvres d'art de style baroque. Ils font venir auprès d'eux des comédiens français, des chanteurs et des danseurs italiens, et seul le seigneur de Weimar a invité à sa cour d'un coup de maître quelques Allemands qui s'appellent Schiller, Goethe et Herder. À part cela, c'est une succession de chasses aux sangliers et de pantomimes sur l'eau, alternant avec le divertissement du théâtre, car chaque fois que le monde se sent là, les jeux, le théâtre, la mode et la danse acquièrent une importance particulière. Alors les princes rivalisent de dépenses et de diplomatie pour se ravir mutuellement les amuseurs les plus curieux, les meilleurs danseurs, musiciens, castrats, philosophes, alchimistes, maîtres de chaponnage et joueurs d'orgue. Gluck et Handel, Métastase et Haas sont aussi bien l'objet de pareilles surenchères que des cabalistes et des cocottes, des artificiers, des grands veneurs, des librettistes et maîtres de ballet, attendu que chacun de ces principicules veut avoir à sa cour ce qu'il y a de plus nouveau, de plus superbe, de plus à la mode, à la vérité plus pour dépiter le voisin qui est à 7 lieues que pour son propre plaisir. Et c'est ainsi qu'ils sont heureux d'avoir des maîtres de cérémonie et des cérémonies, un théâtre en pierre et des salles d'opéra, des scènes et des ballets. Il ne leur manque plus qu'une chose pour tromper l'ennui de la petite ville et donner à l'irrémédiable monotonie des 60 visages de la noblesse, éternellement pareille, l'apparence d'une véritable société, de nobles visiteurs, des hôtes remarquables, des étrangers cosmopolites qui apportent un peu de levain dans la lourde pâte de la petite ville en proie à la tristesse et un peu d'air du grand monde dans l'atmosphère étouffante d'une résidence qui n'a que 30 rues. Un tel désir est-il exprimé par quelques cours ? Vite, vite, les voici qui accourent, ventre à terre, les aventuriers aux 100 masques et déguisements, venus d'on ne sait quel point de l'horizon, d'on ne sait quel refuge. Du jour au lendemain, ils sont là, avec une voiture de voyage et des carrosses anglais. Ils louent aussitôt, d'un geste nonchalant, les chambres qui ont la plus noble façade dans l'hôtellerie la plus distinguée. Ils portent des uniformes fantaisistes de n'importe quelle armée de l'Hindoustan ou de la Mongolie, et ils arborent des noms pompeux qui, en réalité, sont du strass, de fausses pierres précieuses, comme les boucles de leurs chaussures. Ils parlent toutes les langues, prétendent connaître tous les souverains et tous les grands personnages. Ils disent qu'ils ont servi dans toutes les armées et étudié à toutes les universités. Leurs poches sont pleines de projets, leurs bouches résonnent de promesses hardies. Ils font des plans de loteries et d'impôts supplémentaires, d'alliances entre les États et de manufactures. Ils offrent des femmes, des décorations et des castrats. Et bien qu'eux-mêmes n'aient pas 10 pièces d'or en poche, ils susurrent à tout venant qu'ils connaissent le secret de la tinctura auri. À chaque cour, ils pratiquent des arts différents, tantôt mystérieusement chamarrés en franc-maçon et en rose-croix, tantôt chez un prince avide d'argent, expert dans l'alchimie et dans les écrits de Théophraste. chez un souverain ami des plaisirs, ils s'offrent comme honnêtes usuriers et éprouvés coupeurs de monnaie, entremetteurs et proxénètes richement assortis, chez un prince ami de la guerre comme espion, chez un souverain bel esprit comme philosophe et poète raste. Ils attrapent les superstitieux avec des horoscopes, les crédules avec des projets, les joueurs avec de fausses cartes et les naïfs avec leurs distinctions mondaines. Mais tout cela est enveloppé dans les plis bruyants et dans le nimbe impénétrable du mystère et de l'étrange, impossible à reconnaître et par là doublement intéressant. Brillants soudain comme des feux follets et d'une attirance dangereuse, ils passent çà et là, flamboyants et tout vibrant dans l'air morne et saumâtre des cours, arrivant et disparaissant dans une danse de fantômes trompeurs. Ils sont reçus à la cour, on s'amuse d'eux sans leur accorder la moindre estime. On s'inquiète aussi peu de l'authenticité de leur noblesse que leurs femmes de l'anneau conjugal et les filles qu'ils amènent de leur propre virginité. Car celui qui procure du plaisir, qui, ne fût-ce qu'une heure, adoucit l'ennui, pour un prince, la plus affreuse de toutes les maladies, est bien accueilli sans qu'on lui pose aucune question dans cette atmosphère amorale, rendue dissolue par une philosophie matérialiste. On les supporte volontiers comme les courtisanes, tant qu'ils amusent et ne volent pas trop effrontément. Parfois, toute cette bande de canailles et d'artistes reçoit, par exemple, comme Mozart, un noble coup de pied au derrière, parfois il dégringole de la salle de bal à la prison, et même comme le directeur de théâtre impérial à Flisio jusqu'aux galères. Les plus habiles s'insinuent comme des tiques, deviennent receveurs des impôts, amants d'une courtisane en vue ou, comme époux complaisant d'une gourgandine de la cour, gentilshommes et barons même. Mais le plus souvent, ils font bien de ne pas attendre que le rôti brûle, car tout leur charme vient de leur nouveauté et de leur incognito. S'ils truquent trop impudemment les cartes, s'ils plongent sans modération la main dans les poches d'autrui, s'ils séjournent trop longtemps à une cour, quelqu'un peut survenir soudain qui lève leur manteau et fait voir la trace du fouet ou la marque du forçat. Seul un fréquent changement d'air peut les sauver de la potence. C'est pourquoi ces chevaliers d'industrie courent sans cesse à travers l'Europe, commis voyageurs de leur obscur métier, bohémiens allant d'une cour à l'autre, et ainsi, à travers tout le XVIIIe siècle, tournent un carrousel unique de fripons avec les mêmes figures, de Madrid à Saint-Pétersbourg, d'Amsterdam à Presbourg, de Paris à Naples. D'abord, on croit que c'est par hasard que Casanova, à chaque table de jeu et dans chaque petite cour, rencontre les mêmes camarades de gueuserie, les Talvis, Afflicio, Schwerin et Saint-Germain. Mais ces incessants déplacements sont pour les adeptes plus une fuite qu'un plaisir. Ils ne sont en sécurité que pour peu de temps. Ce n'est qu'en agissant de concert qu'ils peuvent se couvrir, car tous ensemble forment une seule famille, une franc-maçonnerie sans truelle ni insigne, l'ordre des aventuriers. Là où ils se rencontrent, ils se font mutuellement la courte échelle sur le terrain de la friponnerie. L'un introduit l'autre dans la société distinguée et il légitime ses titres par le fait même qu'il reconnaît son camarade de jeu. Il change de femme, de costume, de nom, de tout, sauf qu'ils demeurent des coquins. Eux tous qui rôdent en parasites autour des cours, comédiens, danseurs, musiciens, chevaliers d'industrie, prostituées et alchimistes, constituent alors, avec les jésuites et les juifs, les seules internationales existant dans le monde entre une haute noblesse sédentaire, au front étroit et borné, et une bourgeoisie obscure non encore libérée. Ils ne font partie ni de l'une ni de l'autre, mais vagabondent entre les pays et les classes diverses, ondoyants et divers, pirates sans drapeau ni patrie. Une ère moderne débute avec eux, un art nouveau d'exploiter autrui. On ne pille plus les gens sans défense, on n'attaque plus les carrosses sur les routes, mais on dupe les vaniteux et allège la bourse des étourdis. Au lieu du courage des muscles, ils ont la présence d'esprit. Au lieu de la furie de l'assaut, l'effronterie froide. Au lieu du poing brutal du voleur, l'art plus fin des nerfs et de la psychologie. Cette nouvelle façon de couper les bourses s'associe au cosmopolitisme et à des manières soignées. Au lieu d'incendier et de tuer comme autrefois, ils volent en employant des cartes biseautées et des traites falsifiées. Ils sont encore de la race audacieuse de ceux qui faisaient voile vers l'Inde nouvelle et qui maraudaient en qualité de mercenaires dans toutes les armées qui, à aucun prix, ne voulaient gagner leur vie par de fidèles services bourgeois et préféraient se remplir les poches tout d'un coup, quel que fût le danger couru. Seulement la méthode s'est raffinée, et par là aussi, la physionomie. Ils n'ont plus les poings lourds, les visages d'ivrognes, les rudes manières des capitaines de la soldatesque, mais bien des mains noblement baguées et une perruque poudrée sur un front insolent. Ils jouent de la lorgnette et accomplissent des pirouettes, comme des danseurs. Ils usent d'un parlando emphatique, comme des comédiens, et affectent la profondeur, comme d'archi-philosophes. En masquant hardiment leur regard inquiet à la table de jeu, ils font sauter la coupe, et grâce à leur conversation spirituelle, font croire aux femmes à leurs faux amours et à leurs faux bijoux. Il n'y a pas à le nier, tous ont une certaine allure d'esprit et une psychologie qui les rend sympathiques. Quelques-uns d'entre eux atteignent au génie. La seconde moitié du XVIIIe siècle est leur époque de splendeur, leur âge d'or, leur période classique. Tout comme auparavant, sous Louis XIV, une brillante pléiade donne la quintessence de la poésie française, et comme plus tard en Allemagne, l'admirable moment de Weimar concentre la forme créatrice du génie en quelques figures de valeur durable, luisent alors triomphalement au-dessus du monde européen les sept grands astres du charlatanisme sublime et de l'immortelle aventure. Bientôt, il ne leur suffit plus de vider les poches princières. D'une manière à la fois grossière et grandiose, ils interviennent dans les événements de l'époque et ils font tourner la roulette gigantesque de l'histoire du monde. Au lieu de servir et d'obéir, ils se mettent effrontément en avant et aucun signe ne marque plus nettement la seconde moitié du XVIIIe siècle que le rôle joué par ces aventuriers. John Law, Irlandais fugitif, fait exploser avec ses assignats les finances françaises. Déon, mélange d'hommes et de femmes, douteux de sexe et de réputation, dirige la politique internationale. Un petit baron, Neuhoff, à tête ronde, devient vraiment et véritablement roi de la Corse, pour finir ensuite, il faut bien l'ajouter, dans la prison des insolvables. Cagliostro, jeune paysan sicilien, qui de sa vie n'a pu apprendre à lire et à écrire correctement, voit Paris à ses pieds et, avec son fameux collier, dresse à la royauté la corde qui l'étranglera. Le vieux Trenck, le plus tragique de tous, parce que, aventurier sans rien qui pêche contre la noblesse et qui finit par donner de la tête contre la guillotine, joue sous le bonnet rouge le personnage tragique du héros de la liberté. Saint-Germain, le magicien sans âge, voit le roi de France humblement placé à ses pieds et défie encore aujourd'hui, avec le mystère de sa naissance ignorée, le zèle de la science. Tous ont plus de puissance entre leurs mains que les plus puissants. Ils captent l'imagination et l'attention du monde entier. Ils fascinent les savants, séduisent les femmes, ils pillent les riches, et sans fonction ni responsabilité, il tire secrètement les ficelles des marionnettes politiques. Et le dernier, qui n'est pas le pire, notre Giacomo Casanova, l'historiographe de cette gilde, qui les représente tous en se racontant lui-même, complète de la manière la plus réjouissante, par cent prouesses et aventures, le septuor de ces personnages inoubliés et inoubliables, chacun d'eux plus célèbre que tous les poètes, réalisant plus de choses que tous les hommes politiques du temps, maître pour une courte période d'un monde déjà condamné à disparaître. En effet, l'époque héroïque de ces grands talents de l'effronterie et de la comédie mystique en Europe ne dure en tout que 30 ou 40 années, puis elle se détruit elle-même en la personne de leur type achevé, de leur génie le plus parfait, de l'aventurier véritablement démoniaque, Napoléon. Toujours là où le talent ne fait que jouer, le génie agit avec un sérieux grandiose. Il ne se contente pas de rôles épisodiques, mais il exige pour lui seul, pour son rôle créateur, toute la scène du monde. Lorsque Buonaparte, le petit Corse sans le sou, prend le nom de Napoléon, ce n'est plus comme chez Casanova Sengalt ou chez Balsamo Cagliostro, l'individu qui se cache lâchement derrière un masque de gentilhomme, mais c'est la supériorité de l'esprit qui se fait valoir impérieusement devant tous et qui réclame le triomphe comme son droit au lieu de ruser pour l'atteindre. Avec Napoléon, qui fut le génie de tous ses talents, l'aventure quitte l'antichambre du prince pour entrer dans la salle du trône. Napoléon, en la portant à son apogée, achève l'ascension de l'illégitimité vers les hauteurs du pouvoir et il met pour une heure brève sur la tête de l'aventure la plus magnifique de toutes les couronnes, celle de l'Europe. Chapitre 4. Culture et talent. On dit que c'est un lettré, mais d'un esprit riche en cabale, qu'il a été en Angleterre et en France, qu'il a tiré de gentilshommes et de dames des avantages illicites, car toujours son genre fut de vivre aux dépens d'autrui et de duper les crédules. Quand on connaît bien le dit Casanova, on trouve en lui, réuni d'une effrayante manière, l'incroyance, le mensonge, l'impudicité et la luxure. Rapport secret de l'Inquisition vénitienne, 1755. Jamais Casanova ne nie avoir été un aventurier. Au contraire, il se vante d'avoir préféré le rôle de dupeur à celui de dupé et de tondeur à celui de tondu, dans un monde qui, comme les Romains le savaient déjà, aima de tout temps à être trompé. Il n'y a qu'une chose contre laquelle il proteste, c'est d'être confondu avec la canaille vulgaire des escrocs de taverne, avec les galériens et piliers de potence, qui pillent grossièrement et sans façon les poches des gens, au lieu de soutirer aux imbéciles leur argent d'une manière raffinée et élégante. Toujours dans ses mémoires, il secoue avec soin son manteau lorsqu'il est obligé d'avouer une rencontre, dans laquelle, à vrai dire, il faisait part à deux, avec les tricheurs aux cartes à Flisio ou Talvis, car bien que lui et eux se meuvent alors sur le même plan, ils viennent malgré tout de mondes différents. Casanova d'en haut, de la culture, et les autres d'en bas, du néant. Chez Schiller, l'ancien étudiant, l'éthique capitaine de brigands, Karl Moor, méprise ses complices, Spiegelberg et Schufterle, parce qu'il pratique comme un métier rude et sanguinaire ce qu'il fait, lui, dans un esprit d'enthousiasme à rebours pour se venger de la bassesse du monde. Casanova, lui aussi, marque toujours avec énergie la différence qu'il y a entre lui et la clique des tricheurs au jeu qui ôte toute beauté et toute décence à la splendide, à la divine carrière de l'aventure. Car en fait, notre ami Giacomo réclame une sorte de titre de noblesse pour la dite carrière, une distinction philosophique pour ce que les bourgeois jugent déshonorant et les honnêtes gens révoltants. Il veut que l'amour de la comédie, qui est dans le charlatan, soit apprécié non pas comme une affaire malpropre, mais comme un art subtil. Si on l'écoute, le philosophe n'a sur la terre d'autre obligation morale que de bien s'amuser aux dépens de tous les imbéciles, de duper les vaniteux, d'escroquer les naïfs, de soulager les avares et de cocufier les maris. Bref, de punir toutes les folies de cette terre en qualité d'envoyé de la justice divine. La tromperie est pour lui non seulement un art, mais un devoir supérieur à la morale, et ce devoir, il l'exerce en brave prince vivant hors la loi, avec une conscience candide et une incomparable spontanéité. Il faut croire Casanova quand il nous dit qu'il est devenu aventurier, uniquement non pas par besoin d'argent et peur du travail, mais par tempérament poussé par un génie irrésistible. Du côté de son père et de sa mère chargés d'une hérédité de comédien, il prend le monde entier pour scène et l'Europe pour coulisse. Bluffé, trompé, dupé et roulé autrui est pour lui, comme autrefois pour Eulenspiegel, une fonction toute naturelle. Il ne pourrait pas vivre sans la joie carnavalesque, du masque et de la bouffonnerie. 100 fois il a l'occasion de s'installer dans des professions honnêtes, dans des situations bien vues et confortables, mais aucune tentation ne peut le retenir, aucune séduction ne peut le faire s'acclimater à la vie bourgeoise. Donnez-lui des millions, offrez-lui emplois et dignités, il ne les acceptera pas, préférant toujours revenir dans son élément premier, sans patrie, les ailes légères. Ainsi, il peut à bon droit se distinguer avec un certain orgueil des autres chevaliers d'industrie, car il ne l'est jamais devenu par désespoir, mais toujours par agrément. Et de plus, il n'est pas du tout issu, en vérité comme Cagliostro, d'un trou puant de paysans, ou comme le comte Saint-Germain, d'un incognito resté impénétré, et qui probablement, lui non plus, ne sent pas bon. Messer Casanova est lui, quoi qu'il en soit, d'une naissance légitime et d'une famille assez estimable. Sa mère, la Buranella, est une célèbre cantatrice qui excella sur toutes les scènes d'opéra de l'Europe et qui finit même comme pensionnaire à vie du Théâtre royal de Dresde. On trouve le nom de son frère, Francesco, dans chaque histoire de l'art comme illustre élève de Raphaël Mengs, qui était alors qualifié de divin, et on rencontre encore aujourd'hui ces grandes machines de bataille dans tous les musées de la chrétienté. Tous ses parents ont des professions d'une haute honorabilité. Ils portent la respectable robe de l'avocat, du notaire, du prêtre. On voit donc qu'il ne vient nullement du ruisseau, notre Casanova, mais bien de la même couche bourgeoise, teintée d'art, que Mozart et Beethoven. Tout comme ceux-ci, il reçoit une excellente instruction dans les langues classiques et européennes. Malgré toutes ses extravagances et sa précoce connaissance de la femme, avec sa vive intelligence, il apprend parfaitement le latin, le grec, le français, l'hébreu, un peu d'espagnol et d'anglais. Seul l'allemand est la langue qu'il n'arrive pas à mâcher entre ses dents, même au bout de 30 ans. Il excelle en mathématiques aussi bien qu'en philosophie. En qualité de théologien, il prononce son premier sermon dans une église vénitienne dès sa 16e année, et il gagne pendant 1 an son pain quotidien au théâtre de San Samuele comme violoniste. Son doctorat en droit à Padoue, il prétend l'avoir obtenu à 18 ans, fut-il réel ou bien une simple farce? Au sujet de ce problème important, aujourd'hui encore, les illustres casanovistes se prennent aux cheveux. En tout cas, il a appris beaucoup de matières universitaires, car il est versé dans la chimie, la médecine, l'histoire, la philosophie, la littérature, et surtout dans les sciences plus lucratives, parce que étant plus obscures comme l'astrologie, l'art de faire de l'or, l'alchimie. En outre, le joli et alerte garçon brille dans la danse, l'escrime, l'équitation, et les cartes comme le plus distingué des gentilshommes. Et si l'on ajoute à ces nombreuses connaissances acquises si bien et si vite une mémoire véritablement phénoménale qui, dans une carrière de 70 ans, n'oublie aucune physionomie, ne laisse s'effacer rien de ce qu'il a entendu, lu, prononcé ou vu, tout cela réuni constitue une qualité intellectuelle d'un rang particulier qui fait de Casanova presque un savant, presque un poète, presque un philosophe, presque un homme de cour. Oui, mais ce n'est que presque, et ce presque marque impitoyablement la lacune qu'il y a dans la multiplicité des talents de Casanova. Tout ce qu'il est, il ne l'est que dans cette mesure. Il est poète, mais pas poète complet. Il est voleur, mais pas voleur professionnel. Il touche à la sphère intellectuelle la plus haute. Il touche aussi aux galères, mais il ne remplit entièrement aucun talent, aucune profession. Dilettante, achevée et universelle, il sait beaucoup de choses dans tous les arts et toutes les sciences. Il en sait même tant qu'on a peine à y croire. Il ne lui manque qu'un petit élément pour devenir vraiment productif, la volonté, la résolution et la patience. S'il étudiait sérieusement pendant 1 année, on ne trouverait pas de meilleur juriste, d'historien plus spirituel. Il pourrait devenir professeur de n'importe quelle science, tellement ce fameux cerveau travaille avec clarté et prestesse. Mais Casanova ne pense jamais à faire quelque chose à fond. Tout ce qui est sérieux répugne à sa nature de joueur, et toute activité sèchement régulière à son ivresse de vivre. Il ne veut rien être, il lui suffit de tout paraître. L'apparence trompe en effet les hommes, et tromper reste pour lui le plus réjouissant de tous les actes. Il sait que pour donner aux fous l'illusion de la vérité, il n'est pas nécessaire de déployer beaucoup de profondeur scientifique. Quelle que soit la matière dans laquelle il a un brin de connaissance, aussitôt un magnifique auxiliaire vient à son secours. C'est son colossal sang-froid, sa hardiesse de chevalier d'industrie au front sans pudeur. Posez à Casanova n'importe quel problème, jamais il n'avouera être un novice en la matière. Aussitôt, il prendra la mine la plus grave et la plus compétente. Charlatan né, il louvoiera habilement. Batteur de cartes raffiné, il mettra vite tout sans dessous-dessous et se tirera presque toujours avec honneur même de l'affaire la plus risquée. À Paris, le cardinal de Bernis lui demande s'il est un peu au courant de l'organisation des loteries. Naturellement, il n'en a pas la moindre idée. Mais non moins naturellement, ce touche-à-tout répond avec gravité par l'affirmative et, devant une commission, développe avec sa faconde inébranlable des projets financiers comme s'il était depuis 20 ans un banquier éprouvé. À Valence, on désire un texte d'opéra italien. Casanova le compose en un tour de main. Si on lui avait demandé d'écrire aussi la musique, nul doute qu'il l'eût habilement extraite de vieux opéras. à l'impératrice de Russie, il se présente comme réformateur du calendrier et savant astronome. En Courlande, il inspecte les mines en technicien vite improvisé. À la République de Venise, se donnant pour chimiste, il recommande un nouveau procédé pour teindre la soie. En Espagne, il se fait passer pour agronome et colonisateur. Il remet à l'empereur Joseph II un vaste travail destiné à combattre l'usure. Pour le duc de Wallstein, il compose des comédies. Pour la duchesse d'Urfé, il construit l'arbre de Diane et autres pièces de charlatanerie alchimiste. Chez Madame Roumain, il ouvre le coffre-fort avec la clé de Salomon. Il achète des actions pour le gouvernement français. À Augsbourg, il fait figure de ministre du Portugal. En France, il est tantôt industriel et tantôt approvisionneur du parc aux cerfs royal. À Bologne, il pamphlétise contre la médecine. À Trieste, il écrit l'histoire du royaume de Pologne, il traduit l'Iliade en nota verim. Bref, en fourchant toutes les montures, il n'a pas de cheval attitré, mais il sait bien se tenir sur n'importe lequel, sans vider les étriers, ni prêter le flanc à la moquerie. Si l'on feuillette la liste des écrits qu'il a laissés, on croit avoir affaire à un philosophe universel, à un encyclopédiste, à un nouveau Leibniz. Voici un gros roman à côté de l'opéra Ulysse et Circé. Voici un essai sur la duplication du cube. Voici un dialogue politique avec Robespierre. Et si quelqu'un lui avait demandé de démontrer théologiquement l'existence de Dieu ou de composer un hymne à la chasteté, il n'aurait pas hésité 2 minutes. Quoi qu'il en soit, quel talent il y a en lui! Appliqué dans n'importe quelle direction, à la science, à l'art, à la diplomatie, aux affaires, ils eussent donné des résultats extraordinaires. Mais Casanova gaspille volontairement ses talents en choses momentanées. Et cet homme qui pourrait tout devenir préfère n'être rien, mais libre. La liberté, l'indépendance, le vagabondage sans frein, lui procurent un bonheur infiniment plus intense que la vie sédentaire, l'installation à demeure dans n'importe quelle profession. La pensée de me fixer quelque part m'a toujours répugné et une vie raisonnable m'a toujours paru complètement contre nature. Il ne tient à être d'une manière permanente ni receveur bien payé de la loterie au service de sa majesté chrétienne, ni industriel, ni joueur de violon, ni écrivain. À peine est-il en selle quelque part que le trot quotidien l'ennuie déjà. Hardiment, il renonce à sa magnificence, met pied à terre sur la route et attend le prochain carrosse de sa destinée pour y grimper. Sa véritable profession, il le sent, est de n'avoir aucune profession, de n'essayer que superficiellement tous les métiers et toutes les sciences, et puis d'en changer, comme le comédien change de rôle et de costume. Pourquoi se fixerait-il quelque part ? Il ne veut rien avoir, ni rien conserver, et rien être, ni rien posséder, car ce n'est pas une seule vie, mais 100 vies réunies dans une seule, que désire vivre son impétueuse passion. C'est parce qu'il veut la liberté et qu'il ne désire des richesses, des plaisirs et des femmes que pour l'heure qui va immédiatement sonner, sans jamais réclamer durée ni sécurité, qu'il peut passer en riant devant les maisons et les biens de ce monde, lesquels toujours sont un assujettissement, sentant obscurément ce que Grillparzer exprime si bien, car tu es tenu par ce que tu tiens, et là où tu es le maître, tu es aussi le valet. Or Casanova ne veut être le valet de personne, sauf du hasard sacré, qui, il est vrai, le secoue parfois rudement, mais qui, malgré tout, lui procure toujours généreusement de nouvelles surprises. Pour lui demeurer fidèle, il repousse avec dédain les liens même les moins serrés, restant un esprit libre, au sens plus élevé que celui de la simple doctrine. « Mon plus grand trésor est, dit-il avec fierté, que je suis mon propre maître, et que je n'ai point peur du malheur. » Devise virile qui honore plus ce brave que son titre emprunté de chevalier de Saint-Galt. Il ne se préoccupe pas de ce que les autres pensent de lui. Il saute leurs obstacles moraux avec une insouciance charmante, indifférent à la colère de ceux qui restent en arrière et à l'indignation des gens bien assis de qui ses bottes impudentes piétinent les plates-bandes. Ce n'est que dans l'élan, dans l'impulsion du mouvement qu'il éprouve la joie de vivre, et jamais dans le repos et la confortable oisiveté. Par suite de cette manière légère et sans scrupule de se débarrasser de toutes entraves, de sa perspective aérienne, tous les honnêtes gens qui se sont mis au chaud dans le cocon d'une occupation, toujours la même, lui paraissent très ridicules. Ne lui imposent ni les capitaines, faisant avec arrogance cliqueter leurs sabres et qui se montrent tout petits devant les admonestations de leur général, ni les savants, ces vers qui rongent du papier, d'un livre à l'autre, ni les hommes de finance, assis anxieusement sur leurs sacs d'argent et veillant devant leurs coffres-forts. Il n'est attiré par aucune condition, aucun pays, aucun uniforme. Aucune femme ne peut le retenir dans ses bras, aucun souverain à l'intérieur de ses frontières, aucune profession dans sa monotonie. Ici aussi, il perce hardiment tous les toits de plomb, préférant risquer sa vie plutôt que de la laisser croupir. Tout ce qui flambe et bat en fait de talent, de capacités et de force, d'audace et d'esprit, dans ce corps ardent et dur, il le jette toujours au devant de cette chose sans nom, la fortune, la déesse du jeu et du changement. Ainsi, son existence ne se figera jamais en une forme unique. Elle reste changeante comme l'eau sous pression, qui tantôt monte en un jet clair vers le ciel, rayonnante de soleil et de joie, et tantôt s'abat dans les ténèbres de l'abîme avec le fracas d'une cascade. Passant de la table des princes à la prison, dissipateur obligé de recourir au monde-piété et de séducteur des dames devenant humble souteneur, il descend dans sa chute avec la rapidité de l'éclair, mais il remonte, rejaillit et rebondit avec tout le ressort du fluide électrique, pétulant dans le bonheur et impassible dans le malheur, toujours et partout plein de courage et d'assurance. En effet, le courage est le véritable fond de l'art de vivre que pratique Casanova. Et c'est pour lui le don des dons. Il ne met rien en sécurité, il se contente de risquer sa vie. Avec lui, nous voyons surgir un jour au milieu de la multitude des prévoyants quelqu'un qui ose tout risquer, lui-même, chaque chance et chaque occasion. Mais le sort aime les audacieux qui le défient, car le jeu est son élément. Il donne aux effrontés plus qu'aux laborieux, aux esprits impétueux plus qu'aux patients. Et de même, il fait plus de dons à cet homme sans mesure que d'habitude à toute une génération. Il le saisit et le roule dans tous les sens, le promène à travers tous les pays, le pousse vite vers les hauteurs et lui donne un croc en jambe alors qu'il se livre au plus beau des élans. Il le repaît de femme et se joue de lui à la table de jeu. Il chatouille ses passions et le berne au moment des réalisations. Mais jamais il ne l'abandonne et ne le laisse tomber dans l'ennui. Toujours infatigable, il trouve et invente pour cet homme infatigable, son parfait et docile partenaire, une nouvelle péripétie et un nouveau risque. Ainsi, cette vie devient ample, colorée, multiple, riche en vicissitudes, fantastique et bariolée, comme on en rencontre à peine une autre dans une période de plusieurs siècles. Et simplement par le fait qu'il la raconte, celui qui ne fut et ne voulut jamais être quelque chose, devient l'un des poètes les plus incomparables de l'existence, à vrai dire, non pas par sa volonté, mais par celle de la vie même.